Chers auditeurs, nous nous retrouvons et comme d'habitude, nous poursuivons notre étude sur l'Algérie française. Mais avant d'interroger mon ami, mon vieil ami Jean Larmande, pied noir, président du Cercle algérianiste d'Île-de-France, de Neuilly et d'autres lieux, je voudrais vous parler d'un hors-série de Valeurs Actuelles qui porte sur cette question de l'Algérie, quand l'Algérie était française. C'est un hors-série qui se vend actuellement dans les numéro 46, qui se vend actuellement dans, chez les libraires et dans les points de vente de presse. Et c'est très très bien fait. Je tenais à vous le dire et à vous le recommander. Il y a une partie historique, il y a une partie actuelle, il y a un entretien exclusif avec Boualem Sansal. Il y a des articles de fond. Je félicite en particulier Arnaud Folk, mon vieil ami Éric Letty, Jérôme Bénard. C'est des études extrêmement intéressantes, à la fois poussées, mais très lisibles pour les gens qui connaissent peu, qui connaissent moins. Et ça donne une vision, je pense, très exacte de ce qu'était l'Algérie française, qui était une société qui existait, avec de superbes photos d'ailleurs, une société qui existait, qui avait sa légitimité, sa raison d'être et qu'on a sacrifié. Tout ça pour faire plaisir à un homme qui a profité de l'Algérie française pour prendre le pouvoir, mais l'Algérie française l'embarrassait. Il savait que les hommes d'État qu'il avait appelés pour le remplacer, enfin, et pour les sauver, qui s'appelaient Guy Mollet, qui s'appelaient Flinlin, etc., ne pensaient qu'à une chose, c'est à liquider l'Algérie, mais ils en étaient incapables, parce qu'ils étaient à la tête d'un État, la 4e République, qui n'était pas un État. Et on a le sentiment que De Gaulle a renforcé l'État français uniquement d'abord pour régler cette question. Et il ne faut pas oublier que quand il a réglé cette question, non seulement il a détruit une société, il a causé la mort, l'abandon, le terrible appauvrissement de non seulement des Européens français qui ont été obligés de partir, mais de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de musulmans, de harkis, qui ont été sacrifiés à ce rêve de M. de Gaulle de vouloir revenir au pouvoir. Et on est en train de créer une espèce de mythe de Gaulle qui ne correspond à aucune réalité. À cette occasion, c'est lui qui a détruit l'esprit de l'armée, même s'il a de fait achevé la dissuasion nucléaire. Mais dans son esprit, c'était pour transformer l'armée en armée de métier. C'était, bon, heureusement, ça devient une arme pour l'armée française. Mais il a cassé l'esprit non seulement de l'armée, mais de la magistrature, de la police, du service d'ordre, qui était au service de son pouvoir et uniquement de son pouvoir. Et il a mis en prison des quantités de personnes et il a même fait tuer, fusiller des Français qui ne pensaient qu'à une chose, c'est à l'honneur de leur patrie. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que la gauche a pris le pouvoir, l'extrême gauche, je l'ai vu de mes propres yeux, dans les facultés, dans les universités, et maintenant on s'en plaint, elle est la maîtresse du pouvoir, mais il faut dire que le gaullisme lui a préparé le chemin. Ce Valeurs Actuelles, cette hors-série, est tout à fait remarquable et je tiens à le signaler. Les vérités cachées sur les 132 ans de présence française. 132 ans. Et on n'imagine pas ce que la France a pu faire là-bas, le bien qu'elle a fait. Alors même s'il y a eu des choses, bien sûr, comme la République est idiote, elle fait toujours des choses idiotes. Et la répression de Sétif a été... Elle était faite d'ailleurs par des gaullistes et des communistes. Bon, et comme toujours, comme à Madagascar, comme au Togo, comme au Cameroun, ça a toujours été idiot, parce qu'ils ne savent pas faire, ces gens-là. Ils ne sont pas faits pour gouverner, donc ils ne savent pas faire. Une répression, c'est pas massacrer des milliers de gens. Alors ça, c'était la première chose que je voulais vous... Parce que nous allons parler de cette affaire d'Algérie avec notre ami Jean Larmande, et il sait à quel point, personnellement, je tiens beaucoup à cette affaire d'Algérie. Je pense que c'est une des causes du désastre français aujourd'hui, et en particulier de ce problème qui se pose et qui continuera à se poser indéfiniment entre l'Algérie et la France. On n'a pas fait l'Algérie française, on fait la France algérienne. Voilà, c'est ça le problème. Ce n'est pas du tout ce que demandaient les Algériens. Contrairement à ce que l'on croit, il y avait des solutions. Mais les solutions ne sont pas évidemment dans la doxa républicaine. Liberté, égalité, fraternité, c'est des mots. Ce ne sont que des mots avec des majuscules qui ne représentent rien. Et en réalité, c'est à moi le pouvoir, à moi le pouvoir, à moi le pouvoir. Je veux le pouvoir, c'était ce que voulait De Gaulle. Et à l'heure actuelle, ils sont 32 à vouloir le pouvoir présidentiel, comme s'ils étaient tous faits pour ça. Enfin, c'est insensé, c'est évidemment insensé. Alors en même temps, je tiens à signaler la parution du dernier numéro de Politique Magazine, le numéro de mai du 157, La République en lambeaux, c'est le titre du journal, et je vous le recommande également. Et ce journal, vous pouvez vous le procurer en écrivant au 1 rue de Courcelles, 75008, ou bien en téléphonant au 06 45 21 97 57. 06 45 21 97 57. Donc un remarquable numéro de Politique Magazine, comme chaque mois. Et en même temps, je fais de la promotion d'une plaquette qui vient de paraître dans le cadre du Cercle Vauban. Mais tout cela, c'est au 1 rue de Courcelles, à la même adresse et au même numéro de téléphone. La défense est un impératif national. C'est une plaquette en une centaine de pages et qui est vraiment une excellente présentation du problème de la défense aujourd'hui en France. On fait semblant d'en rajouter dans le budget militaire, mais chacun sait que ce sera lui qui sera le premier attaqué lorsqu'il s'agira de trouver des crédits. Et de toute façon, comme le disent les experts, ce n'est jamais qu'un rattrapage sur des décennies d'abandon de l'armée. Alors, cette brochure est extrêmement intéressante parce qu'elle fait un point sur les questions internationales et en particulier sur la question nationale de la défense. Elle fait un point sur nos armées, sur ses missions, sur ses capacités actuelles et sur un avenir possible, parce qu'il s'agit quand même, malgré tout, d'être optimiste, malgré l'état pitoyable de la France aujourd'hui. Alors, après cette présentation, je me tourne vers notre ami Jean Larmande, qui a toutes les qualités pour cela, et qui a commencé à vous entretenir. Donc, nous refaisons l'histoire de l'Algérie, parce que je voudrais beaucoup, pardonnez-moi, je suis le patron de cette émission, donc j'ai une volonté. Et je voudrais beaucoup que l'on comprenne ce qui s'est passé dans les années 56, 58 et 62. Et qu'on comprenne à quel point on a sacrifié une œuvre qui avait ses défauts. Comme toute œuvre sociale, la France elle-même, elle a ses défauts. Le peuple français a aussi des défauts. Mais il a des qualités essentielles et on a construit une société française qui historiquement se tient. Et on ne sacrifie pas, on ne tue pas cette société, on n'en fait pas l'escabeau de son pouvoir comme font tous les hommes politiques aujourd'hui. Oui. Bon, alors je me tourne, Jean, vers toi, et tu nous dis où tu en étais. Alors, nous en étions arrivés aux années Louis-Philippe.
Oui, alors je fais un petit retour en arrière. Vas-y. Parce que, donc, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans la quatrième émission successive consacrée à l'histoire de l'Algérie. Un petit rappel, dans la première émission, le 24 janvier, nous avions étudié le lointain passé de cette région géographique, le nord de l'Afrique. Moi, je préfère ce nom, nord de l'Afrique, pour cette époque, à ce qu'on dit aujourd'hui l'Afrique du Nord, car le nom Nord de l'Afrique est essentiellement géographique et pas du tout civilisationnel. Cette période couvre les époques grecques, numides, carthaginoises, romaines, puis byzantines, jusqu'à l'invasion arabe de la fin du 7e siècle et début du 8e.
8e siècle.
Hein. Oui, le 8e.
7e, 8e.
7e, 8e. Fin de... C'est en 10...
Oui, c'est
en...
ça.
En l'an 700, un peu, autour de l'an 700. La seconde émission, le 24 mars, nous avait permis de traiter l'arrivée des Turcs en Algérie. L'arrivée en Algérie des Turcs, appelés au secours par les pirates musulmans qui étaient menacés par les Espagnols après la fin de la Reconquista et le désir des Espagnols de poursuivre la Reconquista jusque au sud de la Méditerranée. Et dans cette émission, nous avions parlé ensuite de l'expédition d'Alger de 1830 avec la prise de la ville, le départ des Turcs et le début de l'implantation de la France dans ce territoire.
Avec une sorte d'accord d'ailleurs que tu avais parlé, de l'accord passé...
Européen.
Voilà.
Dans ce territoire que l'on nommait alors la Régence d'Alger.
Oui,
le
ça.
Mot Algérie n'existait pas. Dans la troisième émission... Le 21 avril, nous avions étudié l'évolution de la présence française sous le règne de Louis-Philippe, avec l'acte de naissance de l'Algérie en 1834, sous le nom de possession française dans le nord de l'Afrique, qui sera complétée en 1839 par désignée à l'avenir sous le nom de l'Algérie. Et ensuite, nous avions traité de la période dite de l'occupation restreinte, et son expansion progressive jusqu'à la reddition d'Abdelkader en 1847 et au contrôle de tout le territoire après la prise de la Kabylie en 1852.
Donc l'Algérie, c'est la France qui l'a créée.
Oui, exactement.
Elle n'existait pas avant.
Non.
Et même le mot.
Exactement. Alors, dans les derniers... Alors, je refais un petit rappel.
Oui, bien sûr.
Dans les derniers instants de cette émission du 21 avril, nous avions reçu une question à laquelle... Faute de temps, je n'avais pas pu répondre. La question était, j'ai toujours entendu dire que c'est la France qui aurait choisi d'exiler Abdelkader loin de l'Algérie en Syrie, et je suis perplexe en entendant que ce fut la décision de ce grand émir.
Alors, je me souviens très bien de cette question.
Bien sûr, on n'a pas eu le temps d'y répondre. Mais alors, ce fut effectivement le choix d'Abdelkader qui avait été battu par notre armée en Algérie, et n'ayant plus le soutien du sultan du Maroc, se rendit au général de la Mauricière, et au moment de cette reddition, comme l'avait fait 20 ans plus tôt le Dey Hussein, il s'était rendu sous la condition expresse de pouvoir se réfugier en territoire turc, en l'occurrence en Syrie. Alors la France souhaitait bien sûr qu'il ne puisse plus revenir en Algérie, et d'ailleurs elle mit plusieurs années avant de respecter l'accord de reddition, pendant lesquelles Abdelkader fut en résidence surveillée en France, je crois, surtout à Amboise.
À Amboise, dans un château.
Il
a été très bien traité.
Et avant de partir pour la Syrie, et quelques années plus tard, de secourir là-bas les chrétiens de Syrie, attaqués par des chrétiens. Oui, les chrétiens, parce qu'il n'y avait pas que des Français de Syrie, attaqués par des musulmans.
Oui.
Alors, aujourd'hui, nous allons traiter de l'évolution à partir de 1848 de l'Algérie, reconnue comme territoire français dans la constitution de la Deuxième République, et à ce moment-là, divisée en trois départements, Alger, Oran et Constantine, sous l'autorité commune d'un gouverneur général, qui sera un officier général pendant tout le Second Empire et jusqu'en 1879.
Alors, on peut se moquer, comme je l'ai entendu faire et entendu dire, de la dénomination de département, mais c'était la preuve que dans l'esprit de la France et de l'État français, quel qu'il soit, l'Algérie était une terre de souveraineté française.
Oui, mais attends,
quand elle a été bradée, on a bradé un territoire français. De souveraineté française.
Français,
et ça s'appelle un crime de trahison.
Tout à fait. Alors, avant de franchir la Méditerranée, je crois qu'il faut regarder ce qui se passe en France métropolitaine après la fin de la monarchie.
De juillet.
En ce qui concerne l'Algérie.
Oui.
Alors le préambule, je reviens sur... Le préambule de la Constitution de la Deuxième République indique que la République n'entreprend aucune guerre en vue de conquête et n'emploie jamais ses forces contre la liberté d'un peuple. Alors, il y a eu aussitôt, évidemment, dans cette rédaction, un débat sur l'incompatibilité de cette affirmation avec la situation en Algérie. Et ce débat fut résolu par l'affirmation que l'Algérie était française depuis longtemps et la précision à l'article 109 de la Constitution que le territoire de l'Algérie est déclaré territoire français et sera régi par des lois particulières jusqu'à ce qu'une loi spéciale le place sous le régime de la présente Constitution. Enfin, il s'agissait donc à ce moment-là, donc étant en 1848, de la promesse d'une future assimilation totale de l'Algérie,
oui,
mais qui était déjà, disons, territoire français. Alors, les premières étapes de ce, après cette constitution furent le rattachement des cultes, de l'instruction publique et des domaines au ministère correspondant en France, échappant ainsi au ministère de la guerre, puisque le gouverneur général dépendait du ministre de la guerre.
Alors, il faut rappeler à nos auditeurs qu'à l'époque, on ne vivait pas sous le régime de la laïcité. La France avait un concordat.
Oui, bien sûr.
Donc, il y avait un ministère qui était chargé...
Des cultes.
Voilà, ministère des cultes.
Mmh. Et... Tout à fait, oui.
Et alors, c'est important pour comprendre.
Oui, tout à fait. OK. Ensuite, les trois provinces, parce qu'on a une distinction entre province et département pour la même géographie.
Oui, oui.
Parce que on avait maintenu dans cette constitution la distinction en Algérie entre les territoires civils et les territoires militaires. Et le territoire civil de chaque province fut dénommé département, dirigé par un préfet dépendant directement du ministère de la guerre. Et bien sûr, comme tout département, il est subdivisé en arrondissements et en communes.
Alors, on peut préciser, il y avait Alger, bien
Alger,
sûr, Constantine
et
Oran.
Voilà. Alors, dans les communes, il y a eu un conseil municipal élu avec, pour les étrangers et pour les indigènes, une place pouvant aller jusqu'au tiers du total des membres du conseil municipal. Alors, en 48, il y a eu le 27 avril le décret d'abolition de l'esclavage en France qui s'appliqua à l'Algérie. Mais là, il a rencontré une certaine opposition, mais toutefois moins importante qu'aux Antilles. Les militaires comme la Mauricière ou PLC de Reynaud sont favorables, mais d'autres affirment que les esclaves sont nécessaires puisqu'ils dispensent les femmes de sortir comme le prescrit la charia, et que l'abolition risque de pousser à la révolte les grandes tribus qui n'auront plus de travailleurs sur les terres, sur leurs terres. Mais, et d'autre part, l'application de l'abolition de l'esclavage se fit avec prudence, puisque en 1906, il y avait encore des esclaves en Algérie.
Oui, mais le Foucault en a racheté.
Oui, voilà.
C'était un esclavage musulman, arabe.
Musulman, bien sûr. Ah, oui, mais attendez.
Ce n'étaient pas les colons français qui réduisaient en esclavage ou qui s'achetaient des esclaves.
Non, tout à fait. Mais l'esclavage en Afrique par les Arabes fut très long. Et d'ailleurs, ça a été souligné par une ancienne garde des Sceaux, une dénommée Madame Taubira.
Oui.
Qui, lorsqu'il y a une loi pour condamner l'esclavage, etc., s'est bornée, n'a pas voulu que l'on parle d'autre chose que l'esclavage européen
triangulaire
de l'Afrique vers les colonies à l'ouest, en disant il ne faut pas stigmatiser les musulmans.
Oui.
Bon, je m'en reviendrai sur cette
question.
Alors, les expéditions militaires qui avaient eu lieu jusqu'en 1847 avec la reddition des déterminés avec la reddition d'Abdelkader se poursuivirent, mais avec beaucoup moins d'importance qu'à l'époque de la lutte contre Abdelkader. Il y a eu une intervention dans les Ibans, c'est-à-dire au sud de Biskra, pour contrôler une révolte contre une taxe sur les palmiers. Comme quoi, nos socialistes d'aujourd'hui existaient déjà à l'époque et ont taxé les biens, etc., etc. Une taxe sur les palmiers. Et cette révolte a pris un caractère religieux avec l'intervention du marabout Bouziane et s'est étendue à l'Aurès voisin. Alors, la pénétration dans le sud, toujours dans cette opération, se poursuivit dans les monts des Oued-Naïl et vers l'Aghouat. Et enfin, la Kabylie fut prise, d'abord dans sa partie occidentale, c'est-à-dire le Djoudjura et Babor, que cherchait à soulever Boubadia, se disant shérif, ou se prétendant shérif, puis dans sa partie orientale, l'une et l'autre totalement berbérophone. Alors, je vais maintenant commencer là, en parlant par la colonisation européenne en Algérie. Oui. Alors, je vais revenir un peu en arrière, pour bien traiter le sujet, parce que c'est un sujet complexe et sur lequel il y a des tas d'accusations complètement farfelues et donc que je voudrais corriger. Alors, très rapidement, après la prise d'Alger, des Européens, Français, Espagnols, Maltais, Italiens, arrivèrent à Alger et s'installèrent d'abord dans les villes comme commerçants. Et dès octobre 1830, le ministre de la guerre avait écrit à Clausel, qui était
le gouverneur.
Il n'était pas encore gouverneur, c'était pas. C'est 1834, le gouverneur. Oui. Il était commandant des troupes en Algérie, ayant remplacé le maréchal de Bourmont, qui avait été expulsé, puisqu'on voulait. Les Orléans ne voulaient pas d'un danger public qui était un général légitimiste. Alors donc, dès octobre 1830, le ministre de la guerre écrit à Clausel « Le gouvernement est dans l'intention de fonder sur les territoires d'Alger une importante colonie. » C'était d'ailleurs, ça avait été évoqué avant le 1830, au moment de avant le débarquement, et les Européens, en particulier l'empereur d'Autriche, il était très favorable.
Oui.
Alors, cette Clausel, donc là aussi, vu cette intention du gouvernement, y est très favorable, car il y voit la possibilité de créer en Algérie une colonie sur le modèle de celle que l'immigration a créée en Amérique. Mais pour cela, il fallait acquérir la terre, qui est la matière première de la colonisation. Alors, quelle était la propriété des terres à l'arrivée de la France en Algérie? Il y avait d'abord les terres du Beylik, Beyliklik, c'est-à-dire qui appartenaient à l'administration turque et étaient exploitées sous différents régimes. Beaucoup étaient confiés à un gérant, ou kil en arabe, employant des khames, c'est-à-dire des métayers au cinquième, touchant un cinquième de la récolte, et dont les revenus nets entraient dans les caisses de l'État turc, finançaient ainsi sa présence et en particulier les janissaires. Ces terres pouvaient aussi être affermées à des tribus, ça s'appelait Hazel, qui payaient un loyer, toujours aux Turcs, et il y avait aussi les terres du Mahrazen, qui étaient d'un grand intérêt, qu'elles étaient principalement le long des principales voies de communication, et elles étaient confiées par les Turcs à des cultivateurs soldats qui étaient disponibles pour une action militaire et ne payaient aucune redevance. Je crois qu'ils ne payaient qu'une redevance minime. Alors, dès la fin 1830, Clausel fit prendre par le domaine, c'est-à-dire ce qu'on appelait les domaines en France, la possession de ces terres qui étaient devenues sans propriétaire, avec l'obligation d'en continuer la gestion sous la même forme. Il créait ainsi une réserve de terres destinée à de futurs arrivants. Mais il fut difficile d'en préciser la topographie exacte, d'abord parce qu'il n'y avait pas de carte d'état-major, etc. Mais d'autant plus que des territoires furent tout de suite occupés par les tribus voisines dès l'effondrement de la puissance turque.
Bien sûr.
Donc,
la population de l'époque n'était pas du tout la population d'aujourd'hui. Il y avait... Donc, par conséquent, il y avait des étendues désertiques immense, oui. Immense.
Ou désertiques, ou de forêts, etc. Alors, les terres, l'autre type de terre, c'était les terres des Habous, qui étaient dédiées à une institution religieuse musulmane, par exemple à une mosquée en Algérie ou ailleurs, à une confrérie ou à un marabout. Mais ces terres, avant de parvenir à leur bénéficiaire final, passaient souvent entre les mains d'intermédiaires pour une période plus ou moins longue, et parfois dans le but de protéger un héritage, d'éviter que les biens tombent entre les mains des femmes, et parce que les biens des Habous étaient inaliénables. Alors le domaine du ne put pas récupérer de la même façon ce qu'on appelait les Habous publics, c'est-à-dire les terres parvenues à l'institution religieuse à laquelle elles étaient destinées, et les Habous privés, qui étaient toujours encore entre les mains des intermédiaires. Et ça entraînera des modifications successives du droit de possession en Algérie.
Oui.
Ensuite, il y avait deux autres types de terres, qui étaient les terres melk, M-E-L-K, qui correspondaient à des propriétés privées, en général détenues par plusieurs propriétaires, mais chacun pouvant avoir des droits très différents que les autres propriétaires de cette même terre. C'était pas une indivision, c'était oui. des droits différents. Et dans certains cas, certains avaient le droit de shefa'a, c'est-à-dire une sorte de droit de préemption face à un nouvel acquéreur rentrant sur ces terres. Et une terre pouvait être ainsi possédée par une vingtaine d'individus, voire plus. Et puis il y avait les terres arch, c'est-à-dire des tribus, qui étaient donc les terres d'une arch, c'est le mot tribu, étaient les terres d'une tribu ou d'un douar établi sur place. La djema'a, c'est-à-dire la réunion des chefs de famille,
une sorte de bien communal.
Oui, des chefs de famille avaient un rôle important, en particulier dans la répartition des terres, afin de l'adapter aux possibilités et aux besoins de chaque famille. Alors, le bénéficiaire d'une terre en conservait la jouissance tant qu'il la cultivait. Alors, il pouvait la transmettre à ses héritiers mâles, bien évidemment, les femmes n'ayant aucun droit là-dessus.
Dans le droit coranique, oui.
Oui. En revanche, le bénéficiaire n'en avait pas la propriété et ne pouvait ni la vendre, ni l'échanger, ni la louer. En fait, il était usufruitier. Et en cas de décès sans héritier mâle, ou si la terre était inculte, la djema'a pouvait la récupérer et en disposer. Alors la tribu payait aux Turcs sur ces terres un impôt qui s'appelait le karaj. Alors dans tous les cas, qu'il s'agisse des terres melk ou arch, et bien évidemment des termes de beylik et abou, il n'y avait pas de propriété individuelle des terres, mais une propriété collective, comme pour les terres du beylik et des abous.
Bien sûr.
Et ça sera un élément important, la suite des opérations. Alors voilà donc la situation en 1830. Alors, le début de la colonie, de l'implantation européenne. Très rapidement après la prise d'Alger, des Européens, français bien sûr, mais aussi espagnols, italiens ou maltais, ou même d'autres, commencèrent à arriver à Alger pour s'y installer. Au départ, comme le négociant. Alors, à la fin de l'année 1830, donc très rapidement, Clausel fait prendre par le domaine la possession des terres et des bâtiments des beyliks et ceux de certains habous, avec obligation d'en assurer la gestion comme sous l'autorité turque. En fait, le domaine récupère des terres qu'il n'avait plus de détenteurs. C'est pas du vol. Clausel, toujours dans son idée de colonie, veut ainsi créer une réserve de terres pour les futurs arrivants. En 1835, il y a environ 8 000 personnes européennes installées dans les villes comme commerçants, mais aussi dans les campagnes voisines, sur les terres du domaine ou sur des terres achetées. Alors Clausel, toujours dans son esprit, fait créer à Maison Carrée, qui est un petit établissement près d'Alger, une ferme modèle destinée, dit-il, à ouvrir à la colonisation une voie sûre. Et deux ans plus tard, l'intendant civil Gentil de Bussy fut l'initiateur de la colonisation par village, dont on parlera, et de la création du jardin d'essai près d'Alger, afin de propager la culture des végétaux les plus utiles et auxquels conviennent les sols et le climat de l'Afrique.
Non, mais c'est excellent.
C'est vraiment une
La
une
France
opération.
A apporté quelque chose voilà. d'indispensable.
Oui, c'est, tout à fait. Alors, à ce moment-là, un autre nouvel apport, c'est que l'insalubrité du territoire nécessita une forte action médicale, qui fut d'abord destinée à protéger l'armée, puis tous les civils européens et indigènes. Des hôpitaux sont créés, le premier dans le territoire, d'abord l'hôpital Karati en 1832, puis Mustapha, qui existe toujours. Citons aussi un nom bien oublié, c'est le docteur Maillot, qui, c'est un médecin militaire, qui étudie le traitement des fièvres et préconise l'utilisation du sulfate de quinine à haute dose contre le paludisme, permettant de maîtriser cette maladie.
Et qui, donc, bien sûr.
Voilà.
Alors, parce que c'était la maladie qu'on attrapait
dans les marées.
Dans les marées.
Oui, on verra tout à l'heure qu'il y en avait beaucoup. Alors, pour organiser l'installation des Européens, Clausel met en place le régime des concessions. Qu'est-ce que c'est ? L'administration accorde gratuitement, à titre provisoire, quelques hectares de terre à un concessionnaire européen avec des conditions d'exploitation définies. Ces terres, ce sont celles qu'il a récupérées des béylics et autres.
Bien sûr.
Alors, ces conditions d'exploitation, c'est la construction d'une habitation, le débroussaillage ou la déforestation, la mise en culture, etc.
Il y a de très belles photos à ce sujet-là dans les valeurs actuelles de hors-série sur l'Algérie française.
Et ce qui, si les conditions sont remplies au bout de 3 ans, permettra au concessionnaire d'en obtenir la propriété. Et dans le cas contraire, les terres doivent retourner au domaine. Mais cette notion de propriété est spécifique à l'Algérie, et c'est pour ça qu'en Algérie, on n'allait pas à la ferme, on allait à la propriété. Et d'ailleurs, mes amis qui ont vécu en Algérie comme moi parlent toujours d'aller à la propriété, pas à la ferme.
Donc on devenait propriétaire parce qu'on avait travaillé sur la terre.
Exactement. Parce que le but était de mettre les terres en exploitation, et c'était la terre du Béylik, etc. Et pour ça, il fallait que les gens travaillent.
Bien sûr.
Et on verra que...
C'était très intelligent. Comme
tout à fait. Alors, des groupes de maisons se créent spontanément, ou sur l'organisation, etc. Et naissent des agglomérations. Par exemple, Boufarik, qui est entre Alger et Blida, c'est-à-dire qu'il y a une quarantaine de kilomètres d'Alger et une vingtaine de kilomètres de Blida.
Vers le sud, alors ?
Oui.
Oui, c'est ça.
Oui, mais Alger est au bord de la mer, c'est un peu plus au sud.
Bien sûr.
Alors, en octobre 1839, donc après, en gros 8 ans, il y a 316 familles, c'est-à-dire 1500 personnes, qui ont bénéficié de concessions dans cette région. Donc pour la Mitidja, qui est une très vaste plaine marécageuse d'environ 300 km de longueur parallèlement à la Méditerranée, la principale condition était l'assainissement des terres, en perçant la couche imperméable de calcaire qui se trouve à quelques mètres sous la surface du sol.
Et drainée.
Afin d'évacuer l'eau des ouèdes.
Bien sûr.
Jusque-là, les ouèdes descendaient de l'Atlas et, bloquées par les collines côtières, ne pouvaient rejoindre la mer. Donc, ça permet d'assainir les terres et de les rendre cultivables. Mais les conditions de vie sont dures parce qu'il faut arracher les roseaux, enlever les palmiers nains, et l'insécurité est grande. Par exemple, il y a des razzias des tribus Hadjout. Et les conditions sanitaires sont épouvantables, avec une mortalité effrayante, en particulier due aux fièvres. C'est qu'en 1837, il y a eu 39 décès sur les 350 habitants de Boufarik. Donc plus de 10% de la population. Et
Donc il fallait le faire.
Oui, et il fallait
tenir. On aimerait que nos gauchards bourgeois aillent faire la même chose.
Oui.
Et avant de faire des leçons au monde.
Et en 1839, l'attaque d'Abdelkader, qui, dont on avait parlé à la monsieur présidente, va ruiner une bonne partie de ces colonies.
Oui.
Alors, à côté de la concession, il y a une colonisation privée qui s'installe, qui est celle de personnes, principalement françaises, qui s'installent, achètent des terres et y investissent leur argent et leur énergie. Il y a par exemple le baron de Vialard ou le comte de Franlieu. Oui, il y en a des tas d'autres, je vais en citer un ou deux. Et à côté, il y a des immigrants pauvres qui cherchent un moyen de vivre en achetant des terres à crédit par ce qu'on appelle un contrat d'annat, c'est-à-dire une, on dirait aujourd'hui une location-vente.
C'est ça.
Alors, les indigènes vendent facilement des terres parce qu'ils ne croient pas à un établissement durable des Européens et espèrent les récupérer gratuitement ensuite. Alors, il y a des villages de colons qui s'établissent sans plan préétabli, mais par exemple auprès d'un camp militaire, et certaines furent même créées par des groupes d'étrangers. Près d'Alger, à Fort-de-l'Eau, ce sont des familles de Mahonais, c'est-à-dire venant des Baléares, qui venaient pêcher dans la région avant 1830 et qui s'installent. S'installent des cultivateurs suisses venant du Valais. Et il y en a un peu partout. Au sud d'Oran, un village se crée près d'un camp militaire et deviendra, quelques années plus tard, Sidi Bel Abbès. Il y a aussi des villages qui sont créés à Intemouchent, un autre à Batna, dans le sud. Il faut souligner que le succès initial de ce mode de colonisation par des petites propriétés qui contribuent au peuplement agricole du pays par des Européens. Mais après 1840, des difficultés apparaissent. Les conséquences de la guerre menée par Abdelkader, des récoltes détruites par les sauterelles, des maladies, etc. Le ministre de la guerre, le maréchal Soult, contre l'avis de Bugeaud, mais conformément aux avis du général de la Mauricière, qui est un des rares généraux parlant arabe à l'époque, et des Saint-Simoniens, promeut alors la colonisation à l'entreprise et les grandes concessions. Oui. Alors la colonisation à l'entreprise avait pour but de créer des villages, l'État prenant à sa charge les travaux d'infrastructure, et l'entreprise, capitaliste ou associative, recevait la concession des terres avec obligation d'y installer des familles. À Saint-Denis-du-Cygne, près d'Oran, une concession de 3000 hectares fut accordée à une société civile par action sous influence fourriériste, enfin, les phalanstériennes, et nommée Union agricole d'Afrique. L'opération échoua. Parce que les opérations étaient compliquées. En revanche, les grandes concessions, elles, avaient pour objectif de développer en Algérie de grands domaines, propriété d'une classe dirigeante fortunée, capable de le mettre en valeur, sur le modèle de ce qu'il y avait en France avec les grandes propriétés. Il y eut de grands succès pérennes. Par exemple, près de Boufféric, Borély-Lassapi obtint en 1844 une concession de 400 hectares de terres marécageuses qui l'assainissent, comme on disait tout à l'heure, créa un hameau en 1846 et plus tard, il introduit en Algérie la culture du mandarinier venu de Chine. Près d'Oran, Dupré de Saint-Maur obtint en 1946 une concession de 940 hectares avec obligation d'y installer une vingtaine de familles européennes. Il en fit une exploitation modèle pour les céréales et l'élevage qui s'étendait sur 2000 hectares en 1962. Et près de Staweli, au bord de la mer, donc, les moines trappistes obtinrent une concession de 1000 hectares qu'ils développèrent, mais durent la céder au début du XXe siècle lors de la séparation de l'Église et de l'État.
Quand la République a mis la main sur tous les biens ecclésiastiques.
Oui, mais là, ils ont vendu. Elle fut achetée par la famille Borgeau, qui était des protestants suisses, qui poursuivirent son exploitation avec un grand succès, notamment pour la vigne et le vin, en lui gardant le nom de la Trappe, jusqu'à l'abandon de l'Algérie. Mais il y a aussi des échecs. Par exemple, le prince polonais Sviatopolk d'Émir obtint une concession de 4000 hectares à Fort-de-l'Eau, près d'Alger, mais il fit faillite au bout de 3 ans. Alors, l'agriculture avait été confrontée à des années difficiles en 1946-1947, sécheresse, sauterelle, et la famine n'avait été évitée dans les régions indigènes que grâce à des distributions de grains par l'administration. Il avait été de même pour les colons, dont le nombre diminua tant en ville que dans les campagnes, mais aussi pour des raisons de santé. Mais il faut aussi souligner que la situation économique en France était aussi catastrophique à cette époque, c'est-à-dire les ateliers nationaux à Paris, et les Saint-Simoniens virent la possibilité de résoudre l'une par l'autre la question algérienne et la question sociale.
Oui.
À Paris, se créa par exemple la Société algérienne qui étudie les moyens de faire prospérer la colonisation civile. Et en septembre 48, l'Assemblée crée les colonies agricoles et leur accorde un budget de 50 millions de francs pour y établir 13 500 colons. Ceux-ci doivent recevoir une maison, un lot de terre arable de 2 à 10 hectares, des instruments agricoles, des semences, du bétail, etc. Ainsi qu'une aide alimentaire pendant 3 ans. Alors là, la demande venant de tout le pays excéda très rapidement l'offre et le recrutement fut limité à la région parisienne et à quelques Lyonnais. Et une fois qu'ils étaient admis, avec la bénédiction d'une part de prêtres et d'autre part l'appui des loges maçonniques, des convois de 600 à 800 personnes partirent par voie fluviale jusque vers la Méditerranée, jusqu'à Arles, puis ensuite par voie routière jusqu'à Marseille, et en bateau jusqu'à l'Algérie, où 42 centres avaient commencé à être aménagés, 21 dans la région d'Oran, 11 dans celle d'Alger et 8 dans celle de Constantine. Alors dans cette d'Oran, c'était Arzeux, Assiamer, etc. À Alger, c'était Marengo, El Afroun, Tefchoun. Et 8 près de Constantine, c'était Galma, Mondovi. Mais là, l'opération alla trop vite et la préparation fut trop rapide. Et la sécheresse et les sauterelles firent que près de la moitié des colons abandonnèrent et que sur les 24 000 hectares accordés, seulement 10 000 avaient été défrichés.
Ce qui est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup, oui. Cependant, cet échec eut des conséquences.
Il faut se rendre compte de quel travail représentait. C'est la pugnacité dans l'opération. C'est,
oui. Et alors, cet échec eut en revanche des conséquences positives. Certains des villages devinrent des villages très florissants. Car les opérations suivantes de peuplement furent mieux organisées. Les colons devaient être des cultivateurs et disposer de ressources personnelles suffisantes pour exploiter une dizaine d'hectares de terre, l'État leur fournissant une maison bâtie dans le village et limitant son action aux travaux d'utilité publique, en gros les accès routiers, etc.
La voirie,
etc.
Oui, bien sûr.
Alors, une douzaine de nouveaux villages furent créés, Pont-du-Chélif en Oranie, Bourtica dans l'Algérois. Alors, quel est le résultat de ça? C'est que la population européenne, grâce à l'immigration, parce qu'il n'y avait pas d'autres, il y a eu des naissances sur place, mais enfin, fit passer la population qui était de 8000 personnes dans les années vers 1835 à 37000 en 41, à 130000 en 51 et à près de 200000 en 1860.
Voilà, c'est ça.
Mais malgré tout, cette population européenne ne représente pas la majorité en Algérie. Il y a 10 fois plus de musulmans.
Oui.
Disons, 10 fois plus d'indigènes.
D'indigènes. Entre les Kabyles et les...
Et les musulmans et les juifs.
Et les juifs, oui.
Voilà. Alors, cette population est...
Et surtout, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de développer, c'est que on s'aperçoit qu'à aucun moment, il n'y a eu un conflit dans cette affaire entre deux volontés, une volonté qui aurait été caractéristique des indigènes, et puis la volonté des personnes qui s'installaient. En réalité, sous la souveraineté française, il y avait des colons qui s'installaient sur des territoires qui n'étaient pas cultivés et qui n'appartenaient concrètement à personne.
Oui, et en même temps,
mais c'est important à préciser, parce que... Toute l'idéologie d'un Macron qui ne connaît rien, qui ne sait rien, comme tous nos hommes politiques, il ne sait pas. Il ne le sait pas.
Tout à fait.
Et est-ce que lui se donnerait le mal de se créer une ferme, de planter ses poireaux et de se donner du courage tous les matins de partir au champ pour faire son travail?
Mais uniquement devant une caméra de télévision.
Oui, c'est ça. Voilà. Je prends ce ton volontiers. Parce que c'est scandaleux, cette façon de juger. Mais de quel droit juge-t-il?
Oui, tout à fait.
Enfin, ces familles sont toutes des familles honorables, que sache. Ce sont des gens qui ont travaillé, qui sont morts au travail, qui se sont donné du mal pour une tâche.
Oui.
Et c'est eux qui ont fait la prospérité d'Algérie.
Oui, tout à
parce
fait.
Que finalement, en 58, c'était une province prospère
oui.
et qui vivait très bien. Mmh. Même si la France apportait énormément, de mmh. fait. Alors ça, on en parlera plus tard.
Oui, tout à fait.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça n'a jamais été un vol, ça n'a jamais été un rapt.
Non.
Quand il dit que la colonisation a été un crime contre l'humanité, Macron dit une sottise.
Mais au contraire, dans beaucoup de mmh. cas, la population locale, c'est-à-dire le village, prendre
oui.
l'exemple de Blida, qui est à une soixantaine de kilomètres d'Alger,
oui.
la population de Blida fit appel aux Français pour qu'ils viennent s'installer là-bas afin d'être protégés contre les pillards.
Les pillards, contre les razzias.
Et aussi bénéficier de l'aide technique, etc., etc.
C'était des pays à razzia, et maintenant que la France est partie, que tous ces pays du Sahel et puis de l'Algérie, ils connaissent de nouveau les razzias.
Oui.
Avec le vol des femmes, le vol des hommes, les vols des enfants.
Oui, mais on connaît ça.
Et nos progressistes, évidemment, applaudissent, parce que personne ne parle jamais des pauvres filles qui sont embarquées comme ça.
Ça
n'intéresse pas le monde, ni Libération, ni Mediapart.
Mais on commence à connaître ce système de razzia en France. Hein, enfin,
bien sûr, ça va commencer, bien sûr.
Ça s'appelle la DZ Mafia. Bon, DZ Mafia.
Il faut passer le bobino.
Ah, bon.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir, parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement. Pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Merci Bobino, et je ne saurais trop rajouter à Bobino pour dire à nos auditeurs que heureusement qu'il y a une radio comme Radio Courtoisie et qu'il faut la soutenir par tous les moyens, parce que de fait, par exemple, pour cette affaire d'Algérie, c'est un plaisir de parler librement alors que c'est impossible ailleurs, impossible.
Oui. Alors, quand j'ai oublié de dire que la population européenne, je prends depuis le début, était composée en gros pour moitié de Français, pour un quart d'Espagnols et pour 10% d'Italiens et de Maltais, le reste venant d'un peu partout. Alors, comment est administré le territoire de l'Algérie à ce moment-là? Ce sont les bureaux arabes. Donc, les premières années... L'administration du territoire fut essentiellement militaire, à partir de 1830. C'est normal, Puis, une administration civile s'implanta, mais sous l'autorité du gouverneur général de l'Algérie, qui sera un officier général du temps 1879. La question principale fut l'administration des indigènes. En 1844, furent créés les bureaux arabes. Alors, dans la création, on dit « dans le but d'assurer la pacification durable des tribus par une administration juste et régulière, par le maintien de la sécurité publique, par la protection de tous les intérêts légitimes et par l'augmentation du bien-être chez les indigènes ». C'est ça la mission des bureaux arabes.
Alors, la création date de 1844.
44. Donc c'est suite après.
Oui, Philippe.
Alors, ces bureaux ont été confiés à des officiers et furent installés dans les principaux centres militaires, c'est-à-dire les subdivisions ou les cercles. Alors, en 1847, Bugeaud, qui était à l'époque, il était déjà gouverneur général, disait que le but de la colonisation était non pas de refouler les Arabes, mais de les mêler à notre colonisation. Non pas de les déposséder de leurs terres, mais de les y maintenir ou de resserrer le territoire qu'ils possèdent et dont ils jouissent depuis longtemps lorsque ce territoire est disproportionné avec la population de la tribu. Et ce fut ce qu'on appelait le cantonnement, qui pouvait aller jusqu'à une réduction au maximum de 20% des terres de la tribu, mais qui donnait à ce moment-là à la tribu la pleine propriété des 80% qu'elle conserve, alors que jusque-là, elle n'en avait que l'usufruit sous le régime de l'Arche. Donc, il faut bien avoir ça en tête, c'est pas une spoliation, on n'est pas aux États-Unis, en Argentine.
Oui, ça n'a rien à voir avec la colonisation anglo-saxonne. Mm-hmm. C'est par extermination qu'elle procède.
Oui.
Mais les anglo-saxons ont réussi à faire croire que c'était les Français et les Espagnols qui avaient procédé par extermination. Mm-hmm. Et il ne reste d'indigènes en Amérique que dans l'Amérique du Sud,
oui.
Par hasard.
Oui.
Bon, oui. Tandis qu'il n'en reste plus, sauf dans des réserves, en Amérique du Nord.
Mm-hmm.
Les Français se font avoir, les peuples latins se font avoir par les peuples anglo-saxons qui mènent l'histoire. Et là, en ce moment, heureusement, les choses commencent à se rétablir et il est grand temps.
Oui. Alors, je passe maintenant au Second Empire, puisqu'on
bien
est
sûr,
dans les années 48,
de
Seconde République et Seconde Empire. Le maréchal Randon, qui est nommé gouverneur général en 1852, après un passage rapide comme ministre de la guerre sous la Deuxième République. Enfin, il a été nommé et ensuite l'Empire est arrivé et donc il poursuit la politique de colonisation. Il était très favorable à la petite colonisation rurale, disant que le petit propriétaire s'établit, cultive en personne, bâtit de ses deniers et s'enracinera sur place. Il favorise cette petite colonisation en créant des centres de colonisation, 70 villages, et il cherche à regrouper dans un même village des personnes venant d'une même région de France, si on l'a appelé la colonisation départementale, ou d'un même pays ou d'une même province en cas d'étranger. Mais cette politique est limitée par la préférence du général Doma, qui est le directeur des affaires algériennes au ministère de la guerre, et qui, lui, est partisan des grandes concessions individuelles de plusieurs centaines d'hectares, pouvant aller jusqu'à 2600. C'est le cas de Demouchy, un entrepreneur parisien à Tipaza, près de Churchill. La plus grande expérience patronnée par Domas fut celle, intéressante, de la Société genevoise des colonies suisses de Sétif, créée par un décret de 1853, dans un but essentiel de peuplement.
Comment s'écrit Domas?
D-A-U-M-A-S.
Oui.
Sur les 20 000, alors là, sur les 20 000 hectares concédés, 12 000 devaient être réservés à l'établissement de 10 villages de 50 feux. Et les 8 000 restants rétribuant les capitalistes de la société qui, elles, ne payaient aucune redevance. Les fermes furent prospères, mais moins nombreuses que prévu. Il n'y en a eu que 139 au lieu de 500. Et les bâtiments se délabraient rapidement. Mais enfin, on est bien vraiment dans... En fait, on est à l'époque, à ce moment-là, du fourriérisme.
On est dans les
Saint-Simoniens.
Et Napoléon III était lui-même plus ou moins fourriériste.
Oui. Des Saint-Simoniens, c'est-à-dire, le début de la... disons, de l'affairisme... Voilà. Alors, on se crée à ce moment-là, donc là on était toujours sur le régime militaire, mais en 1858, la conquête semble terminée après la prise de la Kabylie et des confins sahariens. Et le régime militaire semble de moins en moins nécessaire. En outre, il y a un conflit d'autorité qui se développe entre le maréchal Vaillant, ministre de la guerre, disant « l'Algérie ne peut pas être un petit empire à côté de la France », et le maréchal Randon, gouverneur général, ne voulant pas détenir un fantôme de pouvoir.
Oui.
Alors l'empereur créa en 58, pour son cousin le prince Napoléon, fils de Jérôme Bonaparte, le ministère de l'Algérie et des colonies, et supprima le poste de gouverneur général, remplacé par un commandement supérieur des forces de terre et de mer, confié au général MacMahon. En fait, le prince Napoléon voulait rester à Paris, il fallait quelqu'un en Algérie.
Oui. Ça n'a pas été une bonne décision de Napoléon III. D'ailleurs, Napoléon III avait des idées un peu, bizarres sur la colonisation. Ça ne l'intéressait pas en réalité.
J'ai oublié une partie. J'ai parlé de la liberté du peuple en Algérie, oui.
Oui.
Oui, d'accord. Je me prends les pieds dans mes notes. Alors, le prince Napoléon mena une politique d'assimilation suivant ce qu'avait souhaité l'empereur, qui avait dit « En face de Marseille, nous avons un vaste royaume à assimiler à la France. » Mais le conflit avec l'autorité militaire recommença et le prince démissionna au bout d'un an et demi et fut remplacé par Chasseloup Loba.
Oui.
Et en septembre 1860, l'empereur...
Le fameux Chasseloup Loba.
Oui. L'empereur, accompagné de l'impératrice, fit un voyage en Algérie. Alors ça, c'est là où il change complètement. Il fut impressionné par la fantasia des 10 000 cavaliers organisés par Youssouf. Mmh.
Et le fameux général Youssouf.
Le général Youssouf, dont il faut rappeler que, je crois que j'avais dit dans une émission précédente, qu'il était né en Grèce ou dans le Nord, qu'il avait été enlevé enfant.
Qu'il était devenu janissaire.
Et qu'il était venu en Algérie, janissaire, et au moment de la conquête française, hop, c'était rallié à la France, il est devenu général.
Et ça a été un brillant général.
Oui, tout à fait.
Et à la tête de ses cavaliers.
Alors,
Tu me permets, là,
bien sûr.
Un de mes souvenirs de mes 14 ans, c'était le défilé du 11 décembre. Du 11 novembre 1958, qui a été un défilé absolu, ou du 14 juillet 1958, sur les Champs-Élysées, où j'étais. Et c'était magnifique. Et il y a eu une fantasia, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était très Algérie française. Hein.
Oui, monsieur.
De Gaulle était en train de prendre le pouvoir, mais il ne pouvait pas détruire cet esprit qui soulevait la France tout entière. Et il fallait voir l'enthousiasme. Les Champs-Élysées étaient à plein à craquer, et on a vu les spahis qui sont descendus, plus ou moins en tiraillant, je crois me souvenir, en cavalcade, et c'était vraiment enthousiasmant. Et le problème était résolu par ce simple...
Oui.
Alors ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne fallait pas prendre derrière des quantités d'instructions, il fallait avoir beaucoup d'intelligence, comme ça se manifeste dans le récit que tu es en train de nous faire. Mmh. Il faut prendre des décisions intelligentes au fur et à mesure que les choses se font, de façon à respecter la réalité des gens et des choses. Mmh. Mais je me souviens de tu parles de cette cavalcade de Youssouf. Mmh. Moi, je me souviens à 14 ans d'avoir été impressionné par cette cavalcade. Et je veux mieux te dire que ces spahis, ils étaient évidemment pro-français. Enfin, ils défilaient derrière le drapeau français. Et ils étaient heureux eux-mêmes, ça se voyait, ils étaient heureux comme tout de faire cette manifestation sur les Champs-Élysées. C'était au cours du défilé, qui a été un défilé prodigieux.
Oui.
Et quand la France le veut, elle est capable de se donner, à elle-même un spectacle réconfortant.
Oui.
J'espère qu'un jour, ça reviendra. Et que les jeunes Français, au lieu d'être débilités, d'être pris de tentatives suicidaires, mais c'est exactement à cause de ce qu'on leur propose, de ce que Macron leur propose.
Oui.
Macron, c'est rien du tout. Ce n'est pas une religion, c'est le contraire d'une religion. C'est l'inverse de ce qu'il faut pour relever le moral d'une troupe.
Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais sur 1958, moi, à ce moment-là, j'étais en Algérie, j'avais commis l'erreur quelques mois plus tôt d'être sur le forum.
Oui, bien sûr. oui.
Pour la prise du gouvernement général.
Oui.
J'ai vu.
Ben moi, j'étais à Paris. À Paris, on descendait les Champs-Élysées. Il y avait bien sûr Le Pen, parce qu'il était toujours là. Mais en fait, il y avait des Parisiens et on est allé. Je m'en souviens encore, vers l'Assemblée nationale, et comme toujours, on essaye de la prendre et on n'y arrive jamais. Parce qu'il y a une seule chose que la République sache faire, c'est se défendre.
Mmh, tout à fait. Alors, il y a eu, alors là, justement, sur le, bon, quelques jours après le 13 mai, oui. Il y a eu une manifestation sur le forum des femmes de la Casbah.
Oui.
Qui était arrivé.
Je m'en souviens.
Et qui, bon, qui a eu manifestation, oui. Etc. Oui. Tout à fait.
Ils sont arrivés avec des voiles.
Et oui. Qui, après la manifestation, ont toutes entassé leurs voiles oui. Sur les, un muret au moins, oui. Et y ont mis le feu en disant c'est fini.
C'est fini.
Oui. Beaucoup, la plupart par les Français. Parce
oui, que, oui bon. Bien sûr.
Alors, je reviens donc sur le. En arrière. Le prince Napoléon mena une politique d'assimilation, mais le conflit avec l'autorité. Ah oui, j'ai dit qu'il démissionna et fut remplacé oui, par. Oui, alors l'empereur accompagné. Fit un voyage, il y a eu cette fantasia de 1000 cavaliers, mais il y avait eu aussi un défilé de ce qu'il a qualifié de bataillon de fonctionnaires en tenue chamarrée, or et argent, etc., qui lui a rappelé que les dépenses de le niveau des dépenses d'administration pour moins de 200 000 Européens. Déjà, la situation de la politique de la France était déjà là. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et surtout, le Napoléon fut le témoin d'une véritable dispute entre les généraux et les préfets, les premiers exigeant que les préfets leur soient subordonnés pour des questions de sécurité. Rentrant à Paris, Napoléon III supprime le ministère de l'Algérie et recrée le gouvernement général qui sera confié au maréchal Pélissier jusqu'en 1964, puis au maréchal de MacMahon, avec une organisation comparable à celle qui prévalait avant le ministère de l'Algérie. Alors, c'est l'époque où se crée ce qu'on appelle, ce que lui, Napoléon III, a défini comme le royaume arabe.
Oui, oui.
Alors d'abord, donc il veut résoudre ce problème de conflit, etc., et développer, mais le choix de la définition par lui fait aussitôt se dresser les cheveux d'un certain nombre d'habitants de l'Algérie, en particulier les Berbères, et les Kabyles, qu'on appelle Kabyles. Parce qu'ils s'appellent Berbères dans toute l'Afrique du Nord, mais comme en Algérie, le plus grand nombre étaient en Kabylie, on les appelle les Kabyles, même s'ils sont dans le l'ouest algérien.
Ça, c'était une erreur, parce que Napoléon III n'était pas un vrai roi, c'était un faux roi. C'était un empereur parvenu au pouvoir par un coup d'État. Mmh. Et donc, il s'imaginait que sur sa personne, il allait réaliser une unité au-delà des différences démographiques, etc., religieuses. Mmh. Mais ce n'était pas possible, parce qu'il n'avait pas ce statut-là, en réalité.
Oui, mais aussi parce que le fait de réussir à faire travailler ensemble deux communautés différentes, surtout ayant quelques siècles de conflit, oui. Est à peu près impossible. Moi, personnellement, je vais sortir un exemple récent. C'était dans les années... fin des années 70. Je suis allé au Maroc pour la première fois parce que la société où j'étais, on avait deux divisions. J'étais chez Hachette, patron international de Hachette, deux divisions au Maroc, l'une s'occupant de presse et de boutiques de papeterie, et l'autre s'occupant de livres et de librairies. Et en partant, le directeur général de Hachette me dit, là-bas, essayez de faire en sorte que, voir comment les deux dirigeants peuvent travailler ensemble.
Oui. Bah, c'est impossible.
Bon, et donc je reviens, à ce moment-là, il m'appelle, je le vois, il me dit, alors vous avez réussi? Je dis non, je n'ai même pas essayé parce que la mission est impossible. Il dit comment? Je dis, oui, parce que l'un est un berbère et l'autre est un arabe. Et donc, chaque fois que je discutais avec l'un, il m'a dit le plus grand mal de l'autre, de ses parents, de sa famille, de ses enfants et de ce qu'il fait. Donc, c'est pas la peine de... Et donc, ce qui veut dire que l'espoir Napoléon III de parler d'arabe, c'est, et d'ailleurs ça a été pour moi une des erreurs magistrales de la France en Algérie, oui. que d'arabiser.
Oui, oui, bien sûr. Bien
c'est
sûr.
Sur le thème « Je veux voir qu'une tête oui. ». Qu'une tête, et en particulier, et aussi...
Et de coraniser.
Et de, exactement, de coraniser parce que les Berbères étaient musulmans, mais enfin avec une certaine distance, parce que c'était, ils étaient musulmans essentiellement pour pouvoir vivre dans le pays sans être arnaqués par les Arabes tout le temps. Voilà, mais ça c'est, on en reparlera. Alors donc, on crée le royaume arabe avec une prépondérance militaire. Et mais avant 1860, d'ailleurs, Napoléon III considérait l'Algérie non pas comme une opportunité, mais comme, disait-il, un boulet attaché au pied de la France. Il a changé de position lorsqu'il est allé pour la première fois en Algérie.
Et qu'il a vu.
Donc dans ce royaume arabe, il y a une prépondérance militaire et une très forte influence des Saint-Simoniens. Par exemple, il y a Ismaël Urbain, qui écrit un livre qui s'appelle « Indigènes et immigrants » pour bien montrer la différence. Et il cherche une fusion des mœurs et des races en vue de la création d'une population franco-arabe. Oui. Et ça, c'est...
C'est absurde.
Absurde.
Il faut laisser faire la nature.
Exactement.
Les gens qui prétendent administrativement régler les problèmes, donnent généralement des solutions.
Et surtout, s'installe aussi un capitalisme financier qui va un peu bloquer
le développement. Alors, en 1870, où est-ce que l'on en est
En 1870, ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde... L'Algérie par rapport à 1830, eh bien il y a d'abord l'agriculture a été étendue, très développée, étendue parce que beaucoup de terres incultes ont été cultivées.
En particulier autour d'Alger.
Partout, près de, au sud d'Oran, etc. Parce que il y avait beaucoup de terres qui en 1830 étaient des terres de parcours. Des tribus. Or, dès qu'on a commencé à cultiver, il y a eu de la nourriture pour les animaux qui n'ont pas eu besoin de passer d'une région d'un endroit à l'autre, etc. Et le nomadisme s'est considérablement réduit.
Cultures, c'était essentiellement quoi ? Le blé ?
Céréales,
la vigne ?
Le blé, le tabac, enfin, il y avait énormément des légumes, etc. Parce qu'on a développé...
Des arbres fruitiers,
etc. En Algérie, avant, ils vivaient sur ce territoire et ils ne faisaient pousser que ce qu'ils avaient.
Oui.
Là, on a fait venir des spécialistes. Les Européens qui sont installés savaient ce qui poussait chez eux, etc. Et le climat de l'Algérie n'est pas très différent du climat de régions du sud de l'Europe.
Oui.
Donc là, l'agriculture s'est énormément développée, est devenue très productive, a employé pas mal de gens, etc. L'extension très forte, ce qui explique bien qu'on n'a pas volé les terres
des
Arabes.
Bien sûr.
Il y a eu aussi...
Tout ça, c'est des conceptions macroniennes, plus ou moins marxistes. Il faut opposer les peuples, opposer les races, opposer les classes.
Tout
ça, c'est républicain, c'est stupide, c'est bête.
Il y a aussi beaucoup d'infrastructures. Par exemple, on a créé des routes. L'armée les a créées tout de suite pour pouvoir se déplacer rapidement d'un point à un autre à la fin des années 1830. Il y a eu des ponts qui ont été créés sur la plupart des rivières. Des ponts, par exemple, sur la plupart des Oued.
Oui.
Donc on ne traversait plus à gué. On pouvait traverser tout le temps. Et on pouvait traverser avec des chariots. les routes et ponts, et aussi, très rapidement, les voies ferrées qui ont été établies. Les ports ont été développés parce qu'il y avait finalement comme port principalement le port d'Oran. Les autres, Alger, il y avait un petit quelque chose qui a été beaucoup développé, etc.
Mais tu as connu le port d'Alger.
Comment ?
C'était un très grand port.
Non, mais...
Le port d'Alger.
Oui, mais je suis pas né, j'étais pas là en 1830.
D'accord.
Oui. Non, en 1830, c'était petit.
Oui.
C'est le petit port d'Alger. Il y a eu aussi des barrages sur les fleuves qui ont été créés, et les villes, etc. Il y a eu aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, la santé qui s'est améliorée avec, bon, la lutte contre le paludisme, mais les problèmes d'hygiène et surtout la présence de médecins, d'hôpitaux, etc., etc., qui fait que l'espérance de vie a fortement augmenté.
La mortalité infantile a diminué,
oui.
Évidemment. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle la population musulmane
a beaucoup
augmenté.
Oui.
Et elle le doit essentiellement à la France.
Oui, et puis il y a eu aussi la paix sociale et la sécurité. Oui. Parce qu'avant, même à l'époque turque, les Turcs ne s'occupaient pas, ne voulaient pas installer la paix entre les différentes tribus, les laisser se battre, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une union contre eux.
Oui.
C'est divide ut regnes, vieux principe romain. Alors, cette réalisation de la colonisation, et donc le niveau de vie a augmenté, etc., l'espérance de vie. Mais ça a été fait sans massacre. On n'a pas fait ce que les anglo-saxons ont fait aux USA ou en Australie, ou bien ce que s'est passé en Argentine, en particulier en Patagonie.
Oui.
Moi, j'ai toujours souvenir, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, souvenir que en demandant des précisions sur le nom du patron d'une filiale là-bas, je lui ai dit, mais le nom s'appelle I, etc. Et un nom argentin derrière, avec deux noms argentins séparés par I. Je ne le citerai pas pour pas le...
Oui.
Et je lui ai dit, mais pour ça, il me dit, mais tu ne connais pas le général Hitz ? Je lui ai dit, non, c'est la guerre du Chaco, ou autre chose comme ça. Il me dit, non, pas du tout. C'est la colonisation de la Patagonie. Il dit, ah bon, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah ben, c'est lui qui a inventé la règle deux oreilles, un peso. C'est-à-dire que quand on venait avec deux oreilles, c'est-à-dire forcément...
Bien sûr.
C'est moins fatigant de porter deux oreilles que la tête qu'on a coupée. Bon. Mais, etc., on recevait un peso. Et en Australie, c'est le gouverneur la Tasmanie, vous savez, la partie, l'île au sud de la... à qui j'ai dit un jour, mais expliquez-moi, moi j'ai passé pas mal de semaines en Australie dans ma vie, pendant une dizaine d'années. Il dit, mais pourquoi il n'y a pas d'aborigènes ici, mais est-ce qu'il y en avait au moment du début de la colonisation ? Et il me répond, oui, il y en avait, mais on les a exterminés. Il dit, pourquoi ? Des êtres humains ? Il me dit, ah non, on a considéré que ça n'était pas des êtres humains. Du coup, pourquoi ? Ben parce qu'ils ne supportaient pas l'alcool.
Ah, c'est ça.
Bon.
L'alcool a d'ailleurs été un moyen de destruction massive.
Oui, alors, donc, il n'y a pas eu de massacre, etc. Il n'y a pas eu non plus de spoliation des indigènes. On n'a pas viré des villages, etc.
Tu as encore 10 minutes.
Oui, alors, mais justement, j'ai parlé.
Si tu as fini ton exposé, alors vas-y.
Je voudrais rajouter quelque chose.
Vas-y, rajoute.
Le problème se pose encore, etc., etc. C'est la différence entre nationalité et citoyenneté en Algérie.
Explique.
Alors, le traité de reddition d'Alger, le 5 juillet 1830, garantissait, alors entre guillemets, à toutes les classes d'habitants, la liberté et le maintien de leur religion, de leurs lois, de leurs coutumes, propriétés, etc. Cet engagement, qui ne couvrait que la population de la ville d'Alger, puisque c'était la résidence d'Alger, fut appliqué, toutes choses égales par ailleurs, à toutes les villes et territoires passant sous le contrôle de la France, en gros, à toute l'Algérie. Euh, les, Attendez. Napoléon III déclara en 1863 « Je suis aussi bien l'empereur des Arabes que l'empereur des Français ». Et après un second voyage en 65, il a dit « Je considère que ce pays est à la fois un royaume arabe, une colonie européenne et un camp français, camp militaire ». Et donc il modifia le statut juridique des indigènes par un sénatus consulte du 14 juillet 1865, disant, on avait dit tout à l'heure que c'était, disant, l'indigène musulman est français, néanmoins, il continuera à être régi par la loi musulmane. Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer, ce qui était déjà fait avec les spahis, etc. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie. Donc là aussi, c'était fait. Mais alors ça, c'est intéressant, là. Et il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français. Dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France. Un autre sénatus consulte du même jour accorde les mêmes droits à l'indigène israélite.
Oui.
Mais, donc là, on ne peut pas dire qu'on fait de la ségrégation. Oui. C'est vous choisissez. Mais en 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1870, il n'y a eu que 194 demandes pour les musulmans et à peine moins de 400 pour les juifs. 398, oui. Je crois, pour les juifs. Parce que ces demandes de naturalisation devaient être formalisées devant un magistrat. Et elles entraînaient ipso facto la naturalisation des enfants nés ou à naître et de leurs descendants.
Et l'obéissance aux lois civiles françaises.
Ainsi donc, que l'application des lois françaises, notamment mariage unique, monogame, service militaire après tirage au sort, impôts, etc.
Oui.
Alors, chez les musulmans, la naturalisation fut considérée comme une apostasie.
Oui.
Et l'apostasie, c'est un péché véniel qui est, dans la charia, puni de mort. On vous coupe la tête.
Tu veux dire un péché mortel.
Tout à fait, exactement. Mais pour les juifs, c'était l'aspect, bien que la loi de Moïse fût toute proche des lois françaises, c'était l'aspect fiscal et autres qui changeait complètement. Et il y a eu très peu de succès parce que il y a eu, comme je l'ai dit, je crois que je l'ai dit, il y a eu moins de 200 musulmans, etc. Mais cet intérêt de la citoyenneté française, dont on nous dit aujourd'hui que nous étions les plus affreux, puisqu'on ne la donnait pas à tout le monde, en acceptant que, par anticipation, hein, comme aujourd'hui, vous êtes citoyen français, mais vous avez le droit de ne pas respecter la loi.
Oui.
Bon, la citoyenneté française n'était pas grand-chose en Algérie, parce que pendant la même période, il n'y a eu que 917 demandes d'étrangers d'origine européenne, espagnols, italiens, maltais, etc., qui arrivaient en Algérie à un rythme proche de celui des Français, et qui étaient 80 000 en 61, et qui pouvaient obtenir la nationalité au bout de 3 ans de résidence. Et il faudra attendre quelques années. Mais cette distinction, c'est que, par exemple, ça c'était la citoyenneté, mais l'administration municipale, à partir de 1868, faisait élire des conseillers dans 4 collèges. Un collège français, un collège musulman, un collège juif et un collège étranger.
Oui, donc, bien sûr, à partir du moment où...
Mais c'était dans une communauté petite et que dans une commune, il n'y a pas de respect du mariage, etc. Ça, ce sont des lois nationales.
Si ces gens se connaissaient et se vivaient comme ça...
Mm-hmm.
Pourquoi vouloir faire exploser ce système?
Mais alors, ça va changer après, parce que après la guerre de 70 et la perte de l'Alsace et de la Lorraine, où il y avait une proportion de juifs plus importante que dans le reste de la France, le décret Crémieux a imposé qui est du 24 octobre 70, donc vous voyez, imposa aux Juifs d'Algérie la citoyenneté française.
Oui.
Mais ça nécessita une intervention du consistoire français auprès des consistoires d'Algérie pour vaincre leur réticence.
Oui.
Et en particulier, ça c'était un ancien membre de consistoire qui m'a expliqué ça, on leur a surtout expliqué qu'il y avait très peu de différence entre la loi juive, la loi mosaïque et la loi française, et que la principale différence portait sur le témoignage des femmes, puisqu'il fallait, dans la loi juive, et donc par conséquent dans la loi arabe, qu'il y ait deux témoignages de femmes pour équilibrer un témoignage d'homme. Et d'ailleurs, en juin 89, la loi française donnera la nationalité française automatiquement aux enfants d'Européens nés en Algérie comme ceux nés en France, sauf décision explicite de la refuser.
Oui.
Parce que là aussi, c'est pour des questions. Là, après 1970, la France s'est aperçue que il manquait un peu de futurs soldats dans l'armée.
Il y avait cet aspect des choses. Oui.
Oui.
Et ça permettait de résoudre administrativement ce problème de l'immigration, de la colonisation avec des peuples différents.
Oui, tout à fait.
Alors évidemment, les musulmans, les arabes, avaient conservé leur statut. Il faut bien comprendre, pour que nos auditeurs saisissent la difficulté, c'est qu'ils avaient leurs propres habitudes.
Oui.
Ils avaient leur caïd, ils avaient leur marabout, ils avaient leur structure.
Leur loi locale.
Ils avaient la charia, ils avaient leur loi locale, ils avaient leur loi tribale aussi.
Oui.
Et donc, pour eux, changer radicalement de statut, c'était d'une certaine manière abandonner une partie de leur existence et de leur tradition. Donc, au contraire, moi je pense que d'une certaine manière, même si on aurait pu faire mieux, la France a fait au mieux les administrateurs français ont fait au mieux de ce qu'ils pouvaient pour à la fois conserver la liberté de conscience et la liberté de ces gens-là, leur liberté administrative, enfin ce qu'ils concevaient comme leur liberté administrative, et d'autre part, le fait de la souveraineté française, parce que c'était ça ce qui était difficile à lier. Qui posait un problème. Alors, il nous reste 4 minutes.
Mais ça existe aujourd'hui en France, dans un territoire qui s'appelle l'Alsace et la Lorraine, où c'est encore le concordat qui s'applique.
Bien sûr.
Et par exemple, l'évêque de Strasbourg est un fonctionnaire français, payé par l'État français, alors qu'on nous tartine de la...
Avec rang équivalent à celui de préfet.
Voilà.
C'est exact. Mais il y avait, alors, résumons-nous, il nous reste quelques minutes. En deux minutes, tu nous dis, au point où nous sommes arrivés, en fait, il y a déjà une Algérie française qui existe.
Oui.
Elle est de souveraineté française. C'est l'armée française qui en assure la sécurité. C'est l'administration française qui essaye de jouer au mieux avec les traditions locales et avec les traditions tribales pour organiser une société. Mais il n'y a pas de spoliation organisée, il n'y a pas de meurtre organisé, il n'y a pas de captation de volonté, il n'y a pas de, y a pas de subordination. Enfin, tout ça est une... on a créé une légende sur l'Algérie française.
Ah, bien sûr.
Arrivée à 1870... on peut dire qu'il y a là-bas déjà une véritable société, aussi bien européenne, française, que européenne et hispanique essentiellement, italienne.
Oui.
Et puis, il y a une société indigène, variée d'ailleurs, parce que, comme tu l'as dit, la Kabylie, ce n'est pas les tribus arabes du sud d'Alger. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Et on essaye, tout cela vit sous le drapeau français et sous la souveraineté française. Alors un mot de conclusion, Jean, avant que nous nous revoyions dans un mois
dans un mois là-dessus. Non, mais c'est
passionnant parce qu'il faut arriver à 1958. Hein.
Oui, mais
et au drame de l'Algérie. Mais pour le moment, il n'y a pas de drame, contrairement à ce qu'on raconte.
Alors, on verra que il y a. On parlera la prochaine fois d'un certain nombre de révoltes, par exemple celle en 1870-71.
Bah, bien sûr, etc. À chaque fois que la France est attaquée, évidemment, il y a.
Oui.
Comme pendant la guerre de 14, il y avait un mouvement sénoussiste qui a d'ailleurs été la cause de l'assassinat du père de Foucault. Mais il est certain que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est par exemple pendant la guerre de 14, le père de Foucault, à lui tout seul, pratiquement avec quelques sous-officiers répartis dans deux ou trois forts à travers le Sahara, ont tenu le Sahara entier.
Oui, mais parce qu'il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas d'ennemis intérieurs.
Non. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a été assassiné, essentiellement.
Oui.
Il a été assassiné comme français, catholique, mais comme français. Et ça, c'est important à le souligner.
Oui.
Parce que ça va ensemble.
Mais
je pense que le seul tort de Napoléon III et des administrateurs et des militaires de l'époque, c'est qu'ils ont eu trop de, sous prétexte de respect de l'islam et du monde arabe, ils ont procéder au coranisme, alors qu'ils auraient dû aider, et je pense que les indigènes attendaient cela, à une extension, comme dans le Sahel d'ailleurs, dans les pays noirs du Sud, à une expansion du christianisme, évidemment.
Oui, mais ça avait commencé.
C'est ce que voyait le père de Foucault.
Oui, les pères blancs l'avaient fait, mais à partir de la séparation de l'Église et de l'État, il y a eu, au contraire, une volonté politique d'interdire le prosélytisme auprès des musulmans.
Auprès des musulmans.
Mais par exemple, le père de Foucault est devenu saint, mais il n'a pas beaucoup converti.
Non.
Il a converti. Avant, au début, mais dans les dernières années, il ne le faisait pas. Il montrait ce qu'était la religion et ce que les chrétiens faisaient.
Un exemple.
Mais, exactement, mais il ne cherchait pas à convertir.
Merci, chers auditeurs. Et nous nous disons dans un mois, cher Jean, pour continuer cette histoire passionnante et dont nous tirons déjà une première leçon, à savoir que l'Algérie était française.
D'entendre le libre journal de la réaction dirigé par Hilaire de Crémier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 19 mai 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.